Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Lorsqu'il est arrivé à Radio France pour nous rencontrer la première fois, en entrant dans la Maison Ronde, machinalement, David, l'ancien braqueur, n'a pas pu s'empêcher d'évaluer en un coup d'œil expert le système d'alarme de Radio France. Réflexe professionnel. Je dois dire qu'il n'a pas eu l'air très impressionné. Je ne vous donnerai pas de détails sur ce qu'il en a dit, mais comme vous l'entendrez, pour lui, de toute façon, tout système qui a été conçu peut être mis à nu, toute alarme sera neutralisée un jour ou l'autre. Il faut dire qu'au départ déjà, Pascal Pascariello, grande spécialiste des braqueurs, est arrivé jusqu'à David d'une drôle de façon. Il se trouve d'abord que Pascal Pascariello connaît un policier, Antoine, qui à ses heures perdues est magicien. Et c'est ce magicien, représentant des forces de l'ordre, qui a d'abord fait connaissance de David, l'ancien braqueur, qui à ses heures perdues fait lui aussi un one-man show. Le flic et le bandit, sur la même scène, ou presque, ça devait valoir le détour. D'ailleurs, le spectacle du deuxième s'appelle « Écroué de rire ». Le jeu de mots n'est pas mal, mais l'histoire ne dit pas si le policier fait disparaître des cadavres, ni si le braqueur donne des conseils aux spectateurs sur les failles des systèmes d'alarme. Mais c'est comme ça en tout cas qu'est arrivé jusqu'à nous cet homme de 45 ans qui nous a semblé cadrer assez bien avec l'esprit de notre petite série « Salaud mais pas trop ». Un homme qui s'est toujours fixé des limites, quoique un peu curieuses parfois, mais dont on ne sait pas exactement s'il les a respectées à la fin, par sens moral ou par chance. Pendant sa cavale qui a duré un an, il se faisait appeler David Lupin, puis il est allé se livrer à la police par amour pour sa femme, enfin c'est ce qu'il dit. Gentleman, cambrioleur ou pas, éthique professionnelle ou hasard de la vie, à vous de voir si le salaud l'est ou pas trop. En tout cas, il n'a pas tué, il n'a pas blessé, c'est un début. David Desclos, lui, a passé des années en prison pour y réfléchir et il nous raconte donc son histoire et sa morale jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, Salaud mais pas trop, deuxième volet, évidemment, par Pascal Pascariello.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis David Desclos, ancien cambrioleur. J'ai cambriolé pendant plus de 10 ans. J'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme et je cambriolais les banques et les grandes surfaces. En tout, j'ai fait 10 ans de prison et je suis sorti il y a 6 ans là maintenant, en 2012. Moi, je viens de la Normandie, belle ville de Normandie, Caen. Mais bon, j'habitais les quartiers un peu défavorisés. J'ai commencé à le quartier de la Grâce de Dieu, ensuite le quartier de la Pierrosée, c'est la banlieue de Caen. J'habitais une tour qui s'appelait le 43, rue Montcalm, mais donc on disait que c'est la rue non calme. Voilà, une cité assez chaude, voilà, on a grandi dans la délinquance. En fait, quand je dis « on », c'est oui, les parents, puis tous les jeunes avec qui j'ai grandi. Quand je suis né, mon père était en prison. Mais bon, j'ai eu la chance qu'il était en semi-liberté. Ça fait qu'il est sorti le matin, il est venu à l'hôpital, et il a pu... Mais le soir, il rentre en prison. Après, moi, le premier souvenir que j'ai de ma vie, c'est le parloir avec Géophone. Je devais avoir 3 ans, peut-être 2-3 ans, et je me rappelle jouer avec les petits trous du parloir, les Géophones, donc mes petits doigts quoi, assis sur les genoux de ma mère et mon père de l'autre côté du parloir. J'ai grandi comme ça, voilà, avec l'héritage du père qui avait grandi dans cette délinquance, l'alcool, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes d'alcool. Et mon père avait 7 frères. Ils sont plus que 2. Tous sont morts à cause de l'alcool et de la cigarette. Aucun n'a jamais fumé un gramme de shit. Et ils sont morts à cause de l'alcool et de la cigarette. Cancer du poumon. Ils ont travaillé toute leur vie dans des chantiers et tout. Ils n'ont jamais profité de leur retraite. Voyant tout ça, j'avais cette haine contre l'État qui défonçait nos pères et nos frères et nos sœurs et nos mères dans l'alcool. Ma grand-mère est morte de ça. Donc moi, j'ai eu un père alcoolique, mais qui, malgré les problèmes d'alcool, nous a élevés avec des principes quand même. Et ma maman a eu un rôle très très important, j'en parle pas beaucoup, et c'est une grave erreur, parce que ma mère, Elle a été vraiment le pilier qui était là pour nous élever sans moyens, sans rien, pas de sous, très très pauvre. On était vraiment là dans un appartement, les huissiers emmenaient le peu de meubles qu'on avait à chaque fois et on avait vraiment rien à manger. C'est moi qui allais tout petit chiner, j'allais frapper aux portes des voisins qui n'étaient pas non plus très friqués et qui nous dépannaient du lait, du pain et tout. Et ma mère essayait de nous élever dans l'honnêteté malgré tout ça, quoi. Elle disait, voilà, nous mettre à l'école, d'essayer qu'on s'en sorte. Et là, je me dis, écoute, l'école, c'est pas pour toi. Je vois l'école, c'est parce qu'on était tous ensemble dans la classe. J'étais avec tous mes amis, on a fait que le bordel. Les profs me le disent, David, tu te gâches, t'as de l'intelligence. Mais bon, m'en fous, je rigole, je délire. Donc l'école, c'est pas pour moi. Et je me rends compte que je suis très bon dans le vol à l'étalage, le vol en filouterie et le cambriolage. Et là, je me dis, je vais m'en sortir. Et je vais sortir ma famille de cette pauvreté, de cette misère, de ce quartier. Et je me dis, je vais m'en sortir par la délinquance, par le banditisme et la délinquance. Alors moi j'ai commencé, je devais avoir les premiers vols à l'étalage, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça a été l'escalade quoi, petit à petit. Puis vraiment à fond vers 12 ans, 11-12 ans, ça a été vraiment de plus en plus. 14 ans, c'était mon quotidien, quoi. Donc 15 ans, 16 ans, je m'affûte dans le banditisme. C'est là que j'apprends à couper les alarmes, tout ça. Je vide les magasins. Je commence par les petites surfaces, quoi, les bureaux de tabac, les super, enfin les petites rues. Et en fait, c'est banal au début, les systèmes d'alarme. C'est, il y a un boîtier extérieur qui sonne. Donc on prend une échelle, la nuit on va à ce boîtier, on écarte le boîtier et on met de la mousse polyuréthane. C'est de la mousse quand tu gonfles et ça durcit. Et en fait, donc ça durcit à l'intérieur. Et donc le système d'alarme, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur d'un système d'alarme, c'est une manivelle qui tourne, un truc qui tourne. Ça fait et à partir du moment où tu le gaves de mousse polyuréthane, et ben ça sonne plus. Là, le haut-parleur, il est gavé aussi de mousse polyuréthane, et au lieu que ça sonne, ça fait ça y est, l'alarme et voilà. Donc tu peux ouvrir ton magasin, ton bureau de taille, tu dévalises tranquillement, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. On fait ça dans la douceur, dans vraiment le calme tranquille de la nuit. Une fois qu'on est enfermé dans le bureau de tabac, on remplit nos sacs et tout ça, on prend notre pied, quoi. C'est propre, c'est net, il n'y a pas de violence, c'est classe, c'est calme. On rentre dans le truc sans qu'on nous voie, on ressort sans qu'on nous voie ressortir. Et pour rentrer chez nous, on fait le tri, on a tout un bureau de tabac chez nous, mais on le fait toutes les nuits. T'as 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu te retrouves en train de dévaliser tout un bureau de tabac, tout un magasin de sport. Et donc, très vite, je me suis spécialisé dans le cambriolage. Cambriolage de nuit, on a cambriolé la supérette du quartier, la boulangerie du quartier, le bureau de tabac du quartier, la maison de quartier, enfin tout, on cambriolait tout, on s'est entraîné dans le quartier à cambrioler. Et là, je suis devenu une plaque tournante, ma tour, le 43 rue Montcalm, vendait du shit, mais vendait aussi des fringues, du tabac, de l'alcool. Et dans le quartier, j'ai fait partie d'un gang où on a instauré des lois. J'ai instauré des lois, on vendait beaucoup de shit, mais on était contre les drogues dures. Je disais, pas de coke, pas d'héroïne. On faisait la guerre à tous les dealers d'héroïne, de cocaïne. Donc le shit, on disait, voilà, drogue douce, oui. Et j'ai eu la chance d'être très très bien entouré par des amis qui grandissaient dans le quartier avec les mêmes principes que moi. Et on a formé ce gang qu'on appelait Pyrose en Force, GILASD, le gang des GILASD, groupe d'intervention locale assurant la semaine et le dimanche. Ça veut dire qu'on cambriolait même la semaine et le dimanche, quoi. C'était, on travaillait, on était non-stop. Mais c'était marrant, voilà, et c'était notre gang. On avait commencé à créer ce gang, on avait quand même 14 ans. Et je cambriolais les pavillons qu'il y a aux abords des quartiers qu'on disait pavillons bourgeois, mais en fait, ils n'étaient pas plus bourgeois que ça, quoi. C'était des ouvriers. Et là, j'ai eu un gros souci dans ma tête. Je me disais, c'est pas bien, quoi. J'étais chez les gens, j'étais là en train de voler une télé, d'une chaîne IFI, des trucs comme ça. Et les gens, quand ils se rendent du travail, ils rentraient de vacances ou quoi, ils voient leur maison cambriolée, leurs affaires souillées. Ils vivent plus pareil dans leur maison, ils vivent comme un viol. Et c'est là que j'ai dit non, terminé, je ne veux pas me comporter comme ça, je vais cambrioler les grandes surfaces et les banques. Surtout, je suis rentré dans une maison avec mes amis, les enfants rentraient de l'école, on s'est fait surprendre. On est parti en courant par la fenêtre. Mais là, j'ai pensé au traumatisme des enfants. Je me suis dit, ils rentrent chez eux, ils veulent des cambrioleurs comme ça, et voilà, ils dorment plus pareil dans leur maison. Et j'étais toujours en train de dire à mes potes, non, saccagez pas, faites pas. Parce que voilà, on s'est tapé des délires, on rigolait dans les maisons, dans les trucs, les gens étaient en vacances et tout. Nous, on était dans leur maison, on n'avait rien, on vidait le frigo, on volait la télé, les trucs et tout. Et donc, plus ça allait, plus j'avais un problème avec ça, je voulais pas, je me disais. Donc je me suis très vite spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. J'ai appris parce que les bureaux de tabac, les supérettes, ils les ont équipés d'alarmes, à force qu'on les cambriole. Donc là, j'ai appris à neutraliser les alarmes, donc je me suis entraîné encore dans le quartier. Et de là, 17-18 ans, j'ai commencé à attaquer les magasins de la ville de Caen. Et puis jusqu'à après, on est parti, 17 et 18 ans, on partait beaucoup dans la Manche, la Bretagne. De nuit, on faisait des expéditions. Donc là, j'ai participé à de grosses expéditions de cambriolage de magasins. On vidait les magasins pour toutes les marques. Je ne sais pas s'il y a le droit de citer les marques, mais c'est toutes les marques qu'on connaît. On neutralisait l'alarme et sans qu'on nous voit, sans armes et sans violence, on vidait le magasin. Et là encore, à partir de 18 ans, j'ai commencé à avoir un autre problème. 18-19 ans, c'est de me dire, tous ces gens qui tenaient des magasins, ils avaient travaillé pour voir le magasin, c'était pas forcément des bourgeois, c'était des... voilà. Et là, 19 ans, je me suis spécialisé sur les grandes surfaces, Super U, Intermarché. Et là, je suis tombé sur des bons gars, des gars qui savaient cambrioler, ouvrir les coffres-forts, des manuels. Et donc là, j'ai dit, puisqu'on sait neutraliser, je sais neutraliser les alarmes, je sais aussi avec mes amis ouvrir les coffres-forts. Donc on s'est dit, on va spécialiser que là-dedans. On va faire que les grandes surfaces. Et puis vers 20 ans, on a fait notre première banque. Et quand j'ai dit, je vais neutraliser l'alarme d'une banque, les autres m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, mais t'es dingue. Je dis, c'est pas plus dur que de neutraliser une alarme de magasin ou de grande surface. C'est pareil. Voilà, j'ai grandi depuis l'école primaire dans ces quartiers où si tu baisses la tête ou si tu te montres faible, bah t'es pris pour une merde, quoi. Tu te fais marcher dessus et tout, et c'était pas mon style. Et donc il m'est arrivé de faire face dans le quartier parce qu'il y a eu des embrouilles, des trucs, et voilà, fallait se défendre. Et c'est pour ça, de revenir sur ce passé, c'est très 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 difficile pour moi. Très très difficile parce que oui, ça a été très très chaud. On a eu des blessés graves dans les deux camps, des morts dans les deux camps. Je réalise à chaque fois que j'y repense que j'ai eu beaucoup de chance grâce à Dieu, parce que ça aurait pu être très grave. Donc ça a été une période du quartier où même la justice commençait à se dire comment va finir le quartier de la Pierrosée, quoi. Il y avait des articles à l'époque quand j'étais jeune, ça titrait la Pierrosée deviendra Chicago, quoi. C'était OK Corral, quoi. Le soir, t'entends des coups de feu, des coups, des trucs, des agressions, des... Ça a été une période, toutes les années 80, les années 90 et début 2000, la Pierrosée a été vraiment le théâtre d'un... Vraiment, on se disait comment ça... Et puis ça a mal fini, parce qu'on a tous fini en prison, il y a eu des blessés graves, des morts. J'ai perdu un ami, il avait 18 ans. On l'a retrouvé dans le canal, mort. Et c'était un ami avec qui j'ai commencé mes premiers coups, Harold, paix à son âme. J'ai mon petit cousin de la cité d'à côté qui a tué un ami de ma cité à moi, à coup de couteau, dans l'artère de la jambe. Un petit jeune, sa mère me connaissait depuis tout petit. Ça nous a grave touchés, d'autant plus que c'est mon petit cousin qui l'a tué. Et donc il faut avoir beaucoup de chance et beaucoup d'intelligence pour pas commettre l'irréparable. Parce que ça aurait pu m'arriver. Il y a eu des moments où ça aurait pu être très chaud, très très chaud. Mais ça a été plus de l'intelligence que de la maîtrise. Parce que je me disais non, faut pas aller plus loin. Non, non, c'est le mec en face, il a une mère, un père, ben, il aura peut-être des enfants. Il faut pas, quoi. Je voulais surtout pas. Mais en fait, il y a une part de chance dans tout ça.
France Culture, les pieds sur terre.
Les premières fois où je vais en prison, c'est pour des faits de cambriolage, agression et tout ça. J'ai pris un an ferme pour ça, plus du sursis, et au bout de 5 mois à la maison d'arrêt de Caen, un matin, je suis transféré disciplinaire au centre de détention d'Argentan, qui est normalement pour les majeurs et pour les longues peines, pour ceux qui ont plus de 2 ans et tout. Et donc, ils me transfèrent à Argentan. Et là, je rencontre un gars qui avait fait carrière militaire et tout, et qui avait ouvert une entreprise d'alarme. Il montait les alarmes. Et moi, ma devise, depuis tout jeune, c'est ce que l'être humain a fait, l'être humain peut le défaire. J'ai toujours dit ça. Chaque fois que je me retrouvais devant une banque, devant un truc comme mes potes, mais c'est fou, t'es fou, elle est trop grande, nan, nan, elle doit être alarmée. Je dis ce que l'être humain a fait, l'être humain peut le défaire. S'ils ont mis une alarme, on va pouvoir la défaire. Et donc là, ce gars-là, il avait ouvert une entreprise d'alarmes. Il montait des alarmes. Alors je dis, si tu sais monter des alarmes, tu sais aussi les défaire. Il me dit, bah oui. Et je dis, bah bien, tu m'intéresses, je l'ai alimenté en shit. Et dans la cellule, j'ai pris des cours. Et là, je me suis spécialisé encore plus dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Et quand je suis sorti, j'ai 19 ans et demi, quasiment 20 ans, et là, je retrouve tout mon gang dans le quartier. Il en reste un petit peu qui sont dehors, mais la plupart sont sortis. Et là, je dis, les gars, on va faire ça encore mieux. On va s'organiser encore mieux. Et là, c'est l'organisation. Là, vraiment, t'as l'équipe qui s'occupe du hashish. On ouvre les premiers terrains de shit, c'est-à-dire la cage d'escalier devient une plaque tournante, un magasin de shit, quoi. C'est depuis l'âge de 14 ans, on faisait ça, mais là, on structure ça, on met vraiment des guetteurs, des chouves, tout en continuant les cambriolages. Donc pendant 4 ans, de 20 à 24 ans, je fais tout ce trafic de shit dans le quartier, là. Bon, l'argent tombe bien. Par mois, ça devait être 15-20 000 euros, ouais, parce que je faisais les cambriolages en même temps. Je charbonnais vraiment, enfin, je travaillais beaucoup, autant dans le shit que dans la cambriole. Donc, on a eu des belles sommes. Et beaucoup de l'argent passait pour aider tout le monde. Et ceux qui étaient en prison, leurs familles, les familles de ceux qui étaient en prison, même ceux qui n'y étaient pas. J'ai eu beaucoup, beaucoup de trucs à payer, quoi. Même si j'ai bien profité, j'étais en vacances. J'ai commencé à vouloir investir dans voiture, une maison, j'ai voulu, voilà. Et j'ai refait une peine de prison. Là, la police était à fond sur moi. Pendant 4 ans, ils me voulaient. Ils voulaient faire tomber David Desclos. Et ils m'ont eu pour pareil encore une petite agression. Donc je fais 4 mois. Et pendant ces 4 mois, je fais le point. Je suis dans ma cellule. Et je me dis, ok, le shit, ça tombe bien. La cambriole, on sait neutraliser les alarmes. On sait faire les banques, on sait faire tout. Mais je deviens fatigué. J'ai dit, il faudrait en faire une bonne fois pour toutes. J'ai toute une équipe de foot à entretenir, j'ai tout le monde, tout. J'ai dit,
toute une équipe de foot?
Ouais, j'appelais ça, moi, une équipe de foot. Mais en fait, tous les amis, les amis de amis, les familles pauvres, enfin, tout le monde. Et je me rends compte qu'il y a plein de mauvaises choses à tout ça. Parce que même si tu t'efforces à vouloir faire que du... Il y a tout le temps du mauvais, il y a de la violence, il y a tout le temps des problèmes de règlement de compte. Tout ce qui est lié à la drogue, dès qu'il y a de l'argent, l'amitié et l'argent, c'est l'huile et l'eau. Donc tu vois que c'est que des problèmes. Et là, je me rends compte que je me retrouve un peu dépassé par tout ça. Et je me dis, il faut faire quelque chose. J'ai voulu arrêter. Et là, je réunis le gros de mon équipe, le noyau dur de mon équipe, 5 personnes. Je les réunis et je leur dis, les gars, je veux arrêter, j'arrête. Et là, t'en as un ou deux qui me disent, on peut pas arrêter comme ça, on a tout est en place, tout est truc, tu peux pas partir, ça se fait pas. J'ai un de mes meilleurs amis venait de tomber pour une grosse peine, il dit, tu penses à lui qui est là-bas, on a dit, c'est à la vie, à la mort, on a dit, c'est tout ça. Et ça faisait 3 mois que je venais de rencontrer Nora, ma femme, avec qui j'ai été à l'école primaire avec elle. C'était la petite sœur d'un de mes amis, donc j'avais eu du mal à la charmer, elle avait entendu parler de moi, et là, j'avais réussi, on était ensemble, et je lui avais dit, Nora, je peux changer. Elle savait, elle connaissait ma réputation, je lui ai dit, je peux changer, je vais devenir quelqu'un de bien, je vais faire autre chose de ma vie. J'avais vraiment envie de changer. Et je leur dis, je veux prendre ma femme et partir et faire autre chose. On a mieux à faire que tout ce trafic, tout ce qu'on a fait, toute l'intelligence, le culot, le talent qu'on a mis là-dedans. Si on le met dans l'honnêteté, on va se gaver, les mecs. Et eux, ils me disent, mais non, t'es fou, ils pensent que je deviens fou, que l'amour m'a rendu fou et tout. Et je dis, oui, écoutez, les gars, le message qu'ils m'envoient en me disant, tu penses aux autres, une parole est une parole, c'est à la vie, à la mort. Hein. Je dis, écoutez, on va en faire une dernière. On va en faire une. Si ça marche, on va tous être bien. Si ça marche pas, on sera tous en prison. J'avais repéré, avec un ami à moi, le siège social de la Société Générale à Caen. C'est la deuxième plus grande banque de France. Et j'avais repéré que aux abords de cette banque, quand tu es sur le côté de la banque, t'as quand même un espèce de petit préau à ras du sol. Et t'as des trappes d'aération. Et quand tu regardes, c'est des graviers, faut se foufiler à quatre pattes là-dessous, c'est toi l'arrière. Tu regardes dans les trappes d'aération, tu as vu sur tous les coffres-forts de la banque. Et à 7 mètres de ce petit mur-là, 7 mètres, tu as une plaque d'égout. Et on lève la plaque, ça fait un puisard dans les égouts. Et là, c'est très facile de comprendre qu'en allant tout droit, tu as le mur en face, tu tombes dans la salle des coffres. Et donc, je dis, mais on va passer par là. On va creuser un tunnel, là, qui va tomber dans la salle des coffres. Et je réunis tout le monde, je leur dis, les gars, regardez, on va faire cette banque-là, on va passer par là, on va creuser un tunnel par là, on va arriver tout droit là. Et là, t'en as deux, ils me disent, mais t'es dingue. Tu vois pas la grandeur de la banque, c'est la deuxième plus grande banque après la Banque de France. C'est pas les mêmes alarmes que les autres banques. Je dis, si, j'ai terminé d'ouvrir un compte, j'ai regardé, c'est des alarmes par détection. C'est l'alarme que j'ai appris à couper à Argentan. Le fameux CD d'Argentan, dans la prison, qui m'a suivi les cours. Et là, tu pénètres à l'intérieur, tu te fais détecter et ça sonne. Alors, tu as des alarmes qui vont sonner fort, comme à l'époque, je disais, là où tu as le boîtier dehors, et ouh. Et tu as des alarmes qui vont pas sonner du tout, tu es dedans, tu crois qu'il n'y a pas d'alarme, mais en fait, ça sonne à la SPGO, Société de Surveillance, et des fois même, ils sont déjà reliés direct à la police. En fait, c'est des alarmes où il faut lever les plaques d'égout avec l'insigne téléphonique. Ben, tu lèves la plaque d'égout la plus proche de la banque, tu vas tomber sur des gros câbles. Et tu prends le plus gros câble qui part en direction de la banque, tu coupes tous les fils sauf le rouge, tu neutralises l'alarme par détection. Ça fait que tu peux pénétrer, l'alarme ne sonne plus à la SPGO ou chez les flics parce que c'est relié par le système téléphonique et satellite et tout ça. Vous voyez ? Il me dit, non David, t'abuses, celle-là elle est grosse, ça doit être une autre alarme, sismique et compagnie. Je dis non, sismique c'est encore pire, c'est si tu tapes, ça envoie, c'est les antennes sur le toit, t'as des antennes sur le toit qui envoient une onde aux flics et tout ça. Et là, t'as un de mes amis qui me dit, écoute, moi j'ai une idée, on prend un caillou, on lance un caillou dans l'aventure de la banque et on va voir comment l'alarme sonne. J'y vais un dimanche, je prends un gros caillou et je le lance dans l'aventure de la banque, je casse le carreau. Et là, je retourne voir mes potes, je dis, voyez, ça sonne pas. Ça ne sonne pas parce que faut rentrer à l'intérieur et se faire détecter. Non, il dit, attends, sois patient, on attend. Au bout de 2 heures, il me dit, ouais, t'as raison, c'est bon, c'est une arme comme ça. Je mets tout en place, on va...
Vous êtes combien à ce moment-là ?
On est cinq, et plus un guetteur chez lui qui est relié avec toute la centrale des flics. On va chercher les étais, l'étayage, c'est les étais, c'est les grandes barres de fer qui vont tenir les planches pour étayer, pour pas que ça s'effondre. On va dans les chantiers, on vole des planches pour creuser le tunnel, et surtout les lapidaires, nous on appelle ça des lapidaires, c'est des grosses machines pour découper. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, pour enlever la plaque d'égout, pour couper le béton avant qu'il y ait la terre, on se fait passer pour des travailleurs qui travaillent le dimanche. Et on arrive devant cette plaque d'égout l'après-midi, on ouvre la plaque, on met des plots, on se fait gros travailleurs et tout, et on avait volé un truc à découper les routes là, une disqueuse à qui marche à essence, c'est une grosse disqueuse qui sert à découper le béton des routes. Et moi je suis tout seul avec un casque et un calepin et un stylo, et je fais mine de prendre des notes. Et lui, il est dans l'égout, en train de découper au béton. Là, mais ça fait plein de fumée, comme une cheminée, quoi. À un moment, il s'arrête, il me dit, ça va, il n'y a pas trop de fumée. Je dis, non, très très peu. C'était une cheminée, le truc, tellement ça faisait de la fumée. Et il arrive donc à découper ça. Une fois que c'est découpé, il sort, on remet la plaque proprement, on tire les plots et tout, tac, tac, et on attend la nuit, le soir. La nuit, on redescend dans les égouts, là, on ferme la plaque au-dessus de nous, et on décèle le bloc béton qu'il a découpé. On arrive à le déceler et on le met comme un pont, parce qu'il y a une rivière d'égout qui passe comme ça. On arrive à le faire basculer, bam, comme un pont par-dessus la petite rivière d'égout. Et là, on a la terre, et à 6 mètres à peu près, tout droit, en allant tout droit, il y a la salle des coffres. Donc, là, on y va, lui et moi. Ça dure pratiquement 4 mois. Parce que, ça, en fait, ça paraît pas, mais c'est de la terre à évacuer, des tonnes de terre. Donc c'est pour ça que ça a été long. On y allait quasiment tous les soirs, de minuit à 4 heures du matin. Et une fois que tout a été évacué, ça faisait un tunnel, une galerie. Et au bout de la galerie, une belle petite pièce. Franchement, vue de l'intérieur, C'est un travail magnifique. C'était vraiment un tunnel digne de la Grande Évasion, quoi. Vraiment, on avait mis 4 mois à le faire, mais la beauté. Et l'idée, c'était d'arriver le jour de Noël. En 1998, Noël tombait un jeudi. Et on savait que la banque faisait le pont. Ça faisait quand, si on arrivait à rentrer dans la salle des coffres le jeudi soir, ça nous faisait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça rouvrait que le mardi matin. Les banques rouvrent que le mardi matin. Donc, je vous laisse imaginer le long week-end que ça nous faisait. Et donc, on était le 15 décembre, on avait notre pièce, tout était fait. Et là, fallait attaquer. Là, on avait quand même, on pensait que c'était tout gagné. Mais 40 centimètres de mur blindé pour avant de tomber dans la salle des coffres. Et en attendant le week-end de Noël, on a commencé à la perceuse à dégommer les 20 premiers centimètres. Un travail de titan. Du 15 au 22 décembre, c'était... On creusait, on en chiait. On était pressé d'arriver au 24 décembre pour faire descendre ce fameux fil de groupe électrogène avec la lance thermique pour dégommer les 20 derniers centimètres. Et là, avec mon pote, et que je suis dans le tunnel avec lui, et je dis, bon, ça y est, là, on arrête, on va se reposer le 23, et le 24, on va dégommer avec la lance thermique et compagnie, on va couper l'alarme d'abord, on coupera l'alarme et on fera.
Parce que là, vous n'aviez pas encore coupé l'alarme.
Non, on coupait pas. On n'était pas encore rentré à l'intérieur, puisque c'était une alarme par détection. On allait couper l'alarme le soir même, le 24 décembre. Le 24 décembre, on neutralise l'alarme, on abat les derniers centimètres, et on est dans la salle des coffres. Donc c'était ça, le projet. On sort, mon pote et moi, on arrive à la voiture, et là, la police nous tombe dessus. La police est autour de la voiture, en train de braquer, nous braquer. Sortez, les mains en l'air, sortez, là. Donc on sort de la voiture, ils nous plaquent, ils nous attaquent, ils nous mettent les menottes et tout. Et là, ils mettent 2-3 coups, mais ils nous mettent dans la voiture, et ils nous emmènent au commissariat. Arrivé au commissariat, là, le directeur de la banque avec le grand chef de la police judiciaire vient, et il me dit, David, tu sais comment t'as eu? Eh bien, il y a 4 mois, vous avez jeté un caillou dans l'aventure de la banque, sûrement pour voir comment l'alarme sonnait. Eh bien, c'est là votre erreur. Parce que quand le directeur de la banque ici présent, il a ouvert sa banque, il a vu sa devanture cassée il y a 4 mois. Il a appelé son responsable des travaux, il a dit, pourquoi mon alarme n'a pas sonné? L'autre lui a dit, parce que vous avez une alarme par détection. Il aurait fallu que vous ayez une alarme par vibration sismique. Eh bien, ils se sont fait faire les travaux pendant que nous, on préparait notre matériel. Ils ont changé l'alarme. Ils ont mis une arme par vibration sismique. Et nous, en creusant le tunnel, en arrivant au mur, en dégommant les 20 premiers centimètres, ça faisait 6 jours qu'on faisait sonner l'alarme sans le savoir. Si on n'avait pas jeté le caillou, ils ne changeaient pas l'alarme, on faisait le casse du siècle à Caen. Voilà. C'est à cause d'un caillou, j'ai mangé 10 ans de prison.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec le deuxième volet d'une petite série intitulée « Salaud, mais pas trop ». C'était David Desclos, l'ancien braqueur, une émission réalisée par Jean-Christophe Francis, un portrait signé Pascal Pascariello. Merci à David, l'ancien braqueur, et à Antoine, le policier. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Céline Autin, notre stagiaire. I know I said...